Alors, vas-y, parle pour voir.
Ouais, attends, je vais te lire un petit bout de ça. En détective sensible et envoûté, le narrateur entreprend alors une véritable excursion dans la mémoire des autres, sur les traces d'Angelo, le frère d'Ada, et de Lutama, insaisissable soleil de leur enfance. Sa quête l'entraîne de Rome à Londres, en passant par Naples, et jusque sur une île italienne presque irréelle. Les enfants Boétie est un roman sortilège, un jeu de miroirs infidèle, un voyage d'une douceur et d'une fluidité trompeuse, flânerie littéraire, d'une surprenante richesse. C'est une expérience de lecture qui oblitère le temps et floute les frontières du rêve et de la réminiscence. Tu veux encore un petit bout?
Écoute, c'est bon, là, pour le volume, c'est très
Bon,
bien.
bon.
C'est parfait.
Eh ben, on commence justement avec ça. Tu peux me lancer en disant que j'ai choisi un premier roman dans la rentrée de janvier.
Ok. C'est parti. Mille et une pages chronique littéraire proposée chaque semaine sur Radio PFM par Frédéric qui est avec nous par téléphone du côté de Béthune. Et Frédéric, cette semaine, tu as choisi de nous parler d'un premier roman dans la rentrée de janvier.
Oui, c'est toujours un petit peu fascinant, voire très très intéressant de se plonger dans l'univers d'un écrivain qui lui-même s'y plonge peut-être pour la première fois lorsqu'il signe son premier roman. Il est né en 1987, il s'appelle Pierre Testard, il vit à Berlin, et Les Enfants Boétie, le titre de son roman publié chez Actes Sud, est son premier roman. Il est aussi traducteur, c'est tout ce que l'on sait de lui. Mais croyez-moi, on en reparlera sans aucun doute, parce que ce roman est relativement incroyable et particulièrement fascinant. On suit un narrateur, un jeune homme qui arrive à Rome, pas du tout dans le côté tourist trap, pour le dire en bon français de France, pas du tout dans les endroits les plus fréquentés. Il arrive dans la banlieue de Rome. Il est là pour occuper un appartement et la personne qui l'a recruté le fait venir pour qu'il soit là très souvent dans l'appartement, un peu comme s'il était son gardien. C'est ce qui fait que le loyer n'est pas très cher. Et visiblement, lui avait envie de quitter son univers, d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passait. Et dans ce nouvel appartement, il met d'ailleurs un certain temps à rencontrer la locataire, la propriétaire. La locataire, on ne sait pas trop. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas sur Ada. Elle n'est pas là. Elle est tellement pas là qu'il va l'attendre plusieurs journées avant de la voir débarquer en pleine nuit. Mais il va se rattraper, parce qu'à partir du moment où elle va être là, à partir du moment où elle va lui parler, la fascination va être absolument totale. On va essayer, à travers elle, de comprendre d'où elle vient, ce qu'est sa famille, son frère, Angelo, pizzaïolo engagé en Angleterre, probablement pas pour ses qualités de cuisinier, mais plutôt parce qu'il parle italien et que dans un restaurant londonien, ça fait bien un pizzaïolo italien, mais c'est surtout la famille d'Angelo et d'Ada qui est fascinante, l'histoire de cette famille, et peut-être même d'amis qui tournent autour de cette famille que l'on va suivre dans des univers que l'auteur raconte vraiment remarquablement, qui sont fascinants, troublants, perturbants. Il observe de façon minutieuse tout ce qu'il y a autour de lui, probablement plus la nuit d'ailleurs que le jour, et vous ne regarderez plus jamais l'ensemble de ce qui vous entoure, je pense, de la même façon. Les scènes de vie familiale, les silences, toute cette fascination, et le mot revient vraiment souvent parce que c'est ce qui finit par piéger le narrateur. Lorsqu'il se fait mettre dehors, parce que, soyons justes, il va finir par se faire remercier par Ada, il ne peut pas s'empêcher de continuer à essayer d'en savoir plus sur cette famille. Il va se rendre à Londres, justement, et rencontrer le fameux Angelo pour qu'on puisse continuer cette conversation, pour qu'il puisse continuer à comprendre qui est Ada, qui est Lou. Ça, je vais vous laisser deviner, ou découvrir plutôt, Lou Tama, une sorte d'artiste qui a aussi été peut-être fasciné par cette famille. Et lorsque le livre se referme, on est très proche de toucher cette fameuse loupe, mais je ne vous en dis pas plus, ça serait gâcher votre plaisir. Regardez ce premier roman, ayez la curiosité d'ouvrir Les Enfants Boétis. Je suis sûr, je suis vraiment, vraiment sûr que cela va vous plaire. Pierre Testard, c'est publié chez Actes Sud. Voilà pour cette semaine, Nico.
Merci Frédéric, et on te retrouve sans faute la semaine prochaine pour de nouvelles aventures littéraires dans cette chronique 1001 pages. Ok, on enchaîne sur une deuxième ?
Oui, on va faire un petit thriller. Comment tu pourrais bien me présenter ça ? Oui, bah, ça s'appelle Le Piège, donc tu peux me dire ça. Tu vas nous parler d'un piège, ce qui est le titre idéal pour un thriller psychologique.
Ok. Chronique littéraire, chronique 1001 pages, proposée par Frédéric avec nous par téléphone. Et aujourd'hui, tu nous parles d'un livre intitulé Le Piège, titre approprié pour un thriller psychologique.
Oui, je pense que les auditrices et les auditeurs de PFM connaissent déjà Jean Hanf Korelitz, pas pour ses livres, mais pour ses scénarios. Ses scénarios, devrait-on dire, puisqu'elle est l'auteur de The Undoing, la série de TF1 récemment, elle était sur OCS au départ, avec peut-être, vous vous en souvenez, Nicole Kidman et Hugh Grant, c'était quelque chose d'assez terrible, froid, un thriller redoutable. Et bien là, l'histoire qu'il y a dans peut-être son premier roman, en tous les cas, le premier thriller traduit de cet auteur en français aux éditions du Cherche Midi, on se retrouve finalement avec deux livres, ce qui pour 22 euros est pas cher, ça fait 11 euros le livre, je vous explique. Le narrateur s'appelle Jacob Finch Bonner. Jacob Finch Bonner a connu une petite gloire pour son premier roman, qui s'est bien vite évaporé pour le second, et est totalement incapable d'écrire un troisième livre. Alors il retombe dans l'anonymat et devient enseignant. Ce qui se fait de plus en plus en France, mais qui se fait beaucoup aux États-Unis, c'est-à-dire il travaille dans des ateliers de creative writing, donc à l'université du Vermont. Là, un jour, un de ses étudiants, plutôt désagréable, se pointe, et il s'appelle Evan, et au cours d'une soirée où ils finissent quand même par parler un petit peu tous les deux, alors que jusque-là ça a plutôt été très très tendu, Evan étant extrêmement méprisant à l'égard des autres étudiants, et même de sa place dans ce cours-là, Evan finit par lui avouer et par lui raconter pourquoi il est là et grosso modo par lui dévoiler l'intrigue du livre qu'il ambitionne d'écrire, une sorte d'intrigue particulièrement géniale, pourrait-on dire un best-seller assuré parce qu'évidemment, et le lecteur le partage puisqu'on va nous donner régulièrement des chapitres et des chapitres de ce livre, il faut bien reconnaître que c'est assez surprenant. Alors, Jacob repart de son côté parce que c'est par période, c'est court, il n'y est pas tout le temps. Et puis, au hasard, le hasard faisant parfois peut-être trop mal les choses, pourrait-on dire, au hasard, il apprend que Evan est décédé. Le livre n'est pas paru et il se décide, lui, oui, vous avez deviné, à l'écrire, forcément. C'est une intrigue pareille. À qui appartient une intrigue, d'ailleurs? Voilà une bonne question qui traverse ce roman, Le Piège. Qui est propriétaire d'une histoire? Il le publie, le succès est au rendez-vous, phénoménal. Il se balade dans tous les États-Unis pour signer son best-seller. Et au plus haut de sa gloire, le fameux Jacob reçoit un email anonyme, assez terrifiant, assez laconique, hein, où il est écrit « Vous êtes un voleur ». À partir de là, évidemment, un autre roman se met en place, en même temps que celui qu'on croyait découvrir. Et Jacob va devoir enquêter, retourner dans le Vermont, essayer de comprendre ce qui se passe autour de ce roman qu'il a rendu extrêmement célèbre et aussi autour des personnages de cette histoire qu'il va forcément devoir essayer de comprendre un peu mieux, de découvrir un peu plus, tout en étant aussi poursuivi par la gloire, par ce que représente son livre pour l'ensemble des lectrices et des lecteurs qui forcément se jettent dessus. C'est extrêmement bien fait. On croit voir, je dois bien le dire, en lisant l'adaptation que cela va donner, parce que c'est bien évidemment le cas, puisque The Undoing a fait un très gros carton, donc je pense que le piège, plot, comme on dit en anglais américain, eh bien, va devenir également une série avec des acteurs tout aussi connus que ce qu'il y avait dans la première adaptation, le premier scénario de ce thriller. Mais je vous assure que à lire, c'est extrêmement agréable. En tous les cas, c'est très très prenant pour une grosse partie du roman, quand on suit les deux affaires à la fois. La fin, comme on nous a tellement vanté sur cette intrigue géniale, c'est vrai qu'on est assez surpris par ce qui se produit. Et puis lui-même, le pauvre narrateur, est quand même pas mal surpris alors qu'il devrait maîtriser tout cela. Et elle est peut-être pas aussi surprenante que ce qu'on dit. En tous les cas, pour les trois quarts du livre, c'est extrêmement réussi. Ça s'appelle Le Piège et c'est de Jean Hans Korelitz. C'est publié au Cherche Midi.
Merci Frédéric. Prochaine chronique 1001 pages, toujours sur Radio PFM 99.9. La semaine prochaine, même heure, même fréquence. Ok, on passe à la troisième alors ?
Ouais. Alors, là, tu sais, je t'avais déjà parlé des ex-lauréats du Goncourt qui publient des livres en janvier. Mmh. Et on en avait fait une sur Éric Vuillard qui se passait en Indochine. Donc Éric Vuillard, il a vu le Goncourt et son nouveau roman là, dont on avait parlé sur PFM, ça se passait en Indochine. Et bien là, c'est pareil, c'est Pierre Lemaitre, il a eu le prix Goncourt et il publie un nouveau roman en janvier et ça se passe aussi en Indochine. Donc avec ça, tu peux me lancer comme tu veux.
Ok, ça marche.
Ça marche ?
Ouais.
C'est bon.
Chronique 1001 pages sur Radio PFM 99.9. On retrouve par téléphone Frédéric pour cette chronique littéraire hebdomadaire. Alors, dans une précédente chronique, Frédéric, tu nous avais déjà parlé d'un ex-lauréat du prix Goncourt qui sortait un bouquin en janvier, Éric Vuillard, pour ne pas le citer, dont le roman se passait en Indochine. Là, tu vas nous parler d'un autre ex-lauréat du Goncourt qui sort également un livre en janvier et dont l'intrigue se passe également en Indochine, c'est ça ?
Oui, Pierre Lemaitre. Et il faut bien reconnaître que ce nouveau roman publié aux éditions Calman Lévy, Le Grand Monde, est une réussite absolument formidable. Il y avait eu Les Enfants du Désastre, dont le premier tome, comme tu l'as rappelé, avait obtenu le prix Goncourt en 2015. Et cette trilogie se déroulait à peu près au sortir de la Première Guerre mondiale. Et pendant quelques années, on suivait des personnages, c'était devenu un film. Albert Dupontel avait adapté cela. Il avait eu d'ailleurs, Pierre, le César du meilleur scénario, meilleure adaptation. Là, on est 30 ans après. Et on est, comme tu viens de le dire, en Indochine. C'est drôle cette fascination pour l'Indochine qui revient coup sur coup dans deux excellents livres de cette rentrée de janvier, de façon très différente, parce que même si le livre d'Éric Vuillard tient de la littérature, n'est pas un roman, c'est vraiment quelque chose qui relève de l'histoire et de sa façon de faire ses livres d'histoire. Là, avec Pierre Lemaitre, on est véritablement dans le roman. Mais pour autant, et j'insiste vraiment là-dessus, puisqu'il a choisi de se faire aider par une doctorante agrégée d'histoire qui s'occupe de sa documentation, qui l'aide dans sa documentation, le livre de Pierre Lemaitre est particulièrement bien informé, documenté, sans être pesant. Il me racontait d'ailleurs être parfois très très ennuyé, alors il l'appelle tout de suite pour lui dire, parce qu'elle fait des recherches, elle va très très vite dans certaines directions, et puis lui ne peut pas forcément mettre cela, ou que ça n'aide pas l'intrigue, ou ça ne fonctionne pas comme il voudrait, un peu comme un réalisateur montrait son film au final et retirerait des séquences avec des actrices et des acteurs qu'il aimait bien. Eh bien, là, de la même façon, l'intrigue prime surtout, peut-être plus encore les personnages priment surtout, et c'est ce qu'ils gardent. Et il faut parfois se débarrasser de choses très 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 intéressantes. Il y a Jean, Étienne, François, trois fils de Louis Pelletier, qu'on retrouve à Beyrouth. Ils sont là depuis un certain temps, croit-on comprendre, mais tous ont envie de revenir évidemment en France, enfin tous s'exagèrent. Jean et François. François veut devenir journaliste. Il va mentir un petit peu sur le fait qu'il réussit ses études parce que c'est surtout le journaliste qui l'intéresse et le fait de retourner en France. Jean, lui, aurait dû reprendre l'entreprise de son père. Il n'est pas spécialement doué. Il se retrouve à Paris aussi pour des raisons un peu plus floues. Et puis Étienne, lui, justement, c'est lui qui va aller en Indochine retrouver son amoureux, quelqu'un qui a traversé sa vie, qui est parti là-bas et qu'il veut essayer de retrouver parce qu'il a disparu. Et on apprend très très vite, nous, dans le roman, qu'il est mort et on va le suivre, lui, dans ce territoire qui est en train de terminer sa vie avec la France. Et il faut bien reconnaître que ce que trouve Pierre Lemaître, qui m'a dit être quelque chose qui est plutôt connu, moi j'ignorais totalement, autour de la piastre, de la monnaie, de la conversion de cette monnaie, qui a permis à un nombre de petits truands de se faire des fortunes, c'est quelque chose d'assez intéressant, mais ce sont surtout les personnages, et vous le savez bien, c'est aussi un auteur de thriller, la fascination que peuvent exercer certains de ces personnages sur les lectrices et les lecteurs dans cette nouvelle tétralogie, puisqu'il y aura 4 volumes, est très réussi. Je pense à Geneviève et à Jean, et ça, je vous laisse vraiment découvrir parce que ça serait abîmer le roman. Mais plus encore, il y a un moment donné, pour ceux qui ont lu la première trilogie, c'est pas du tout obligatoire, hein, mais pour ceux qui ont lu la première trilogie, qui vont se retrouver avec une sorte de coup de chapeau magnifique, le roman très très avancé, et c'est ces instants, vous savez, il y a ceux qui renversent tous les romans avec des switches, mais on se dit... Oui, d'accord, bon, super, mais non, non, là, c'est beaucoup mieux fait par Pierre Lemaître, parce que lorsque ça se retourne, on se dit, ah bah oui, mais il nous l'avait dit une fois, deux fois, on n'a juste pas été assez intelligent pour le voir, pas juste pas été assez attentif. Et quand c'est fait de cette façon-là, on est vraiment incroyablement charmé, autant que troublé d'ailleurs. Ça fait 600 pages, mais elle passe à toute vitesse, et de cette fabrique de savon, puisque c'est de cela... que Louis Pelletier s'occupe là-bas à Beyrouth, qui a fait sa fortune, eh bien, on va aller jusqu'ici, dans le nord, un petit peu, justement, au nord de Béthune, pas très loin de où je fais cette chronique, et on va pas mal regarder le Paris de ces années-là, le Paris d'après-guerre, des années 50, qui est en train de changer beaucoup. Le Grand Monde, Pierre Lemaître, aux éditions Calman-Lévy. Voilà pour cette semaine, cher Nico.
Merci Frédéric de nous donner envie de lire chaque semaine et on te retrouve la semaine prochaine toujours sur Radio PFM 99.9 pour une nouvelle chronique 1001 pages. Ok, on en fait une dernière ?
Ouais, on en fait une dernière, cher Nico. Alors, j'avais déjà fait une chronique sur cette collection, tu sais, c'est raconter un peintre par l'un de ses tableaux. Et donc, ben, je vais le refaire là. Si tu veux, tu peux le dire, c'est sur le Caravage.
Donc, c'est des petits livres qui racontent...
Voilà, qui s'attachent à essayer de raconter la vie d'un peintre très célèbre en prenant l'un de ses tableaux majeurs. Ça marche ?
Oui.
Ok.
Chronique 1001 pages sur Radio PFM 99.9. On est par téléphone avec Frédéric. Alors, dans une précédente chronique, Frédéric, tu nous avais déjà parlé de ces petits livres qui s'attachent à évoquer un peintre célèbre par le biais d'une de leurs toiles majeures. Et là, tu vas nous parler d'un de ces livres en particulier consacré à Le Caravage.
Exactement. C'est Alain Le Ninez qui a déjà signé d'autres titres dans cette collection aux ateliers Henri Dougier. Celui-ci s'intitule « Le dernier sommeil selon Caravage » et c'est toujours cette très jolie petite collection qui, à travers une œuvre, vous l'avez peut-être compris, il s'agit de « La mort de la Vierge » de 1606 que Michelangelo Merisi a peint, qui a d'ailleurs été refusé par son commanditaire, c'est le couvent des Carmes, qui est censé peindre la Vierge décédée et l'Assomption. Alors il a choisi, il faut bien reconnaître, un modèle un petit peu particulier pour peindre sa Vierge. On a tendance à croire que c'est une prostituée qu'il connaissait sans doute parce qu'elle avait déjà fait l'objet d'autres de ses toiles, avait déjà été un modèle. Il faut dire que sur la toile qui est au Louvre, quelques pas hein, de la Joconde. Aujourd'hui, on nous raconte, enfin on comprend pourquoi cette toile est arrivée là d'ailleurs, puisque refusée de l'autre côté. La Vierge a une toute toute légère auréole autour de la tête. On l'entreaperçoit à peine. C'est pas la Vierge qui l'a peint, c'est la mort, en fait, de cette belle femme, au ventre un peu rond, où visiblement, elle a les pieds très très sales, elle est morte noyée dans la réalité, on le comprend. Il y a au premier plan Marie-Madeleine, ce qui fait quand même beaucoup de prostituées hein, pour un tableau religieux. Et pour nous raconter tout cela, parce que c'est fait de façon romanesque, à travers cette toile si particulière, Francesco Buoneri est le narrateur. Buoneri a existé, semble-t-il, il aurait été un élève assistant de Michelangelo Merisi, donc le Caravage, et à travers son journal, on va voir son maître, qui a déjà 36 ans, et les 4 prochaines années de sa vie vont être très 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 compliquées, hein, parce que le Caravage avait une vie on ne peut plus dissolue, une tendance assez singulière, à vouloir se promener comme les nobles de l'époque, ce qu'il n'est pas, avec son épée, et plus encore singulière, à s'en servir assez souvent, il va finir par tuer quelqu'un. Et les protecteurs, qui sont importants, ne vont pas pouvoir continuer à le protéger. Il va devoir fuir Rome, caché dans un cercueil fermé, s'enfuir vers Naples, ensuite plus loin encore. On suit tout cela dans la deuxième partie du livre avec une correspondance, parce que là, l'élève ne peut pas le suivre. Mais dans la première partie, comme toujours, l'histoire de ce tableau nous est contée. Et à travers cette histoire, c'est évidemment son travail, la façon dont il regarde, transforme, bouleverse l'art, à travers justement le regard qu'il pose sur ces hommes, ces femmes, où l'histoire religieuse n'allait jamais. Un peu comme au XXe siècle, lorsqu'on se met à écrire des romans noirs aux États-Unis, on fait tomber la tragédie dans le caniveau, plus bas, voilà. Et bien là, lui fait ça avec la peinture des siècles avant. Il faut aussi se souvenir d'ailleurs que cette œuvre a été complètement éclipsée, a disparu pendant plusieurs siècles après sa mort, et Roberto Longhi s'est attaché dans les années 50 à la faire revivre, attribuant un peu trop de tableaux à Caravage, ça sera corrigé. Tout ça est aussi évoqué dans des regards croisés qui viennent finaliser l'ouvrage. On voit aussi un texte de David Hockney, de Martin Scorsese. Bref, c'est vraiment évoqué de façon remarquable, toujours ce tableau, mais en n'oubliant pas de raconter autour l'extrapolation, en nous racontant une vraie histoire policière, parce qu'il y a un proxénète qui va se faire donc relativement transpercé par le fameux Caravage, et puis la fuite, la fin, tout ça reste très mystérieux, mais intéressant, je dirais assez passionnant. Voilà, ça s'appelle « Le dernier sommeil selon Caravage », le roman d'un chef-d'œuvre, la collection, aux ateliers Henri Dougier, c'est signé Alain Le Ninez. Voilà pour cette semaine, Nico.
Eh ben merci Frédéric, et on te retrouve la semaine prochaine, toujours sur Radio PFM 99.9 Libre et sans pub, pour une nouvelle chronique 1001 pages. Ok, c'est en boîte. Tiens, toi, est-ce que toi, t'es fan de Maigret, toi, ou...
Ah oui, très, très bien Maigret. Je suis un grand fan de Maigret.
J'imagine, alors tu es allé voir le film déjà, là?
Non, pas encore, mais peut-être cet après-midi.
Ouais. C'est qui? C'est Patrice Lecomte à la réalisation, c'est ça?
La réalisation, c'est Patrice Lecomte, ouais. Et c'est le grand Gérard qui, ouais, fait ça.
Bon, normalement, ça doit être pas mal quand même, non?
Je pense que oui. En tous les cas, moi, les retours que j'en ai eus à travers les chroniques, et puis même quand le grand Gérard accepte de faire de la promo, c'est qu'il est content du film qu'il a fait. Et il est quand même assez sévère avec son boulot. Hein. Donc, c'est que ça doit être bien réussi. Mais si tu t'y attaches et que tu veux bien le faire, que t'es un bon acteur, un Maigret, c'est, je dirais, pas facile à réussir. Mais enfin, tu peux vraiment faire un bon truc, quoi. Hein.
Ouais. Mais bon, là, ça faisait longtemps qu'il y a... Enfin, même au cinéma, je ne sais pas s'il y avait eu des adaptations. Enfin, à la télé, bien sûr, mais...
Ouais. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'on ne se rend pas bien compte, mais c'est que... Et c'est assez incroyable, mais c'est que dans le monde entier, partout, les gens tournent des Maigrets.
Ah bon,
en Angleterre, au Japon, tu vois, des gens, tu te dis, pourquoi ils font ça? Puis en fait, les histoires leur plaisent, ou faire vivre ce personnage-là, ouais. Ça leur plaît, je ne sais pas. En tous les cas, j'avais rencontré une fois à Lens son fils.
Ouais.
John, qui s'occupe des droits, tu vois, de son père, et il me disait que les sollicitations, elles étaient énormes, quoi.
Ouais.
pour les adaptations. Ah ouais. Souvent, souvent, il fallait qu'ils regardent tout ça pour savoir qui faisait quoi, parce qu'ils voulaient pas que ce soit n'importe quoi, mais c'était pas si facile que ça. D'autant que de son vivant, son père s'en foutait complètement. Et il disait, le cinéma, c'est juste un tiroir caisse. Donc tu vois, il s'en foutait complètement. Mais c'est un petit peu. C'est un petit peu difficile pour lui de suivre tout ça, quoi. Enfin, il m'avait dit ça.
D'accord.
Tu es allé le voir, toi?
Non, non, pas encore, mais ça me disait bien, ouais.
Ouais, je crois que ça doit valoir le coup. Moi, je l'ai lu, hein, celui-là. Enfin, j'en ai lu plein, mais celui-là, j'ai lu particulièrement. Et si tu veux, c'est vraiment. Mais tu comprends. Alors, monsieur et madame Maigret, tu les connais vraiment, hein, donc tu les vois ensemble. Et ils auraient adoré avoir des enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Ils l'ont perdu. Et tu as l'impression que Maigret, il regarde cette jeune demoiselle qui est assassinée, comme si c'était sa fille, ou comme si. Voilà, il se devait d'enquêter sur elle un peu comme si c'était, ça aurait pu être sa fille qui était venue à Paris et qui s'était fait un petit peu avoir par toute la riche bourgeoisie parisienne. Donc c'est un Maigret très particulier, je crois.
Et complètement autre chose là. Est-ce que tu sais
Dis-moi.
Si à Béthune il y a des rassemblements là, tu sais à Arras, puis à Lille il y en a eu des trucs sur l'Ukraine.
Ah,
sais pas.
À Béthune, là, je sais pas.
Non,
il y en a, tu crois?
Mais je sais pas, c'est une question que je te pose.
Ah,
je sais pas
alors là, je saurais pas te répondre. Moi, je dirais qu'en tous les cas, la municipalité et le maire en particulier, sur ce genre de truc humanitaire, et je suis pas trop de sa tendance, il est centre-droit, tu vois, mais il est très attentif à ça. Donc ça serait pas impossible qu'il y ait un truc sur la Grand Place, quoi.
Ouais.
Mais en même temps, comme il y a toujours ces fameuses distances, et tu vois, tout ça, alors je sais pas s'il oserait vraiment s'impliquer, ou impliquer la municipalité dans ça, parce que forcément, si les gens se rassemblent, bon, même si le virus baisse beaucoup, beaucoup de force en ce moment... Mais je sais que sur d'autres trucs qui avaient été par exemple sur les attentats, tu vois, Charlie Hebdo et tout ça, il avait fait planter un arbre, il avait fait une cérémonie et tout. Donc il réagit de façon assez humanitaire, humaine à ce genre de choses en général. Mais concrètement, là, je saurais pas te dire. J'étais tellement je sais pas vous, mais scotché hier par ce qui se passait j'ai pas regardé au niveau local. J'ai regardé les infos nationales, quoi.
Ouais, c'est sûr. Ouais.
On était déjà tellement démonté. Est-ce que tu aurais la gentillesse de m'envoyer les deux chroniques, tu sais, la première et la dernière, Nico, quand tu les auras faites, hein, à ton rythme, comme d'habitude. Hein.
Ouais. Alors là, on va changer de site internet.
Ah, d'accord.
Bon, normalement, notre objectif, c'est début mars, donc c'est la semaine prochaine. Est-ce que ça vaut le coup... est-ce que ça vaudrait pas le coup d'attendre 2 semaines?
Ouais.
Est-ce que ça te
Ah, mais ça me gêne pas. De toute façon, même si ça peut être pratique pour toi, tu peux jouer dans l'ordre des chroniques que je t'ai donné aujourd'hui pour passer les autres avant et puis enfin faire comme ça t'arrange, quoi. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le lien vers la première et la quatrième qu'on a enregistrées aujourd'hui. Mais après, tu joues avec ça comme tu veux, puis tu me les envoies quand tu peux.
D'accord, ouais, ça marche, ok.
On fait comme ça, hein?
Tu
joues vraiment au plus libre. Mais les deux personnes qui veulent entendre, c'est la première chronique sur le premier roman et sur le truc sur le Caravage.
Ça roule.
Ça marche?
On
et
fait
après,
comme ça.
Tu me les envoies quand tu veux. Il n'y a aucune urgence, Nico.
D'accord.
Vraiment.
Bon, bah, comme ça, je le mettrai sur le nouveau. Comme ça, bah, tu me diras aussi un petit peu ce qu'on t'en pense.
Ouais, volontiers. Ouais, ouais, tout à fait.
Quand même,
je regarderai comme ça. Ouais, ouais,
il est quand même plus
d'accord.
sympa et tout. Puis il est accessible aussi sur les smartphones. Ça sera plus.
D'accord.
Ça va nous changer
bon,
un petit
bien,
peu la vie.
Ouais,
ok.
Ouais. Pas de soucis. Volontiers.
Bon, et ben, à bientôt. Voilà. Bah,
ouais,
je te rappelle dans un mois.
Tu me rappelles. Salut.
Ça marche. Ciao.